Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans le show du vendredi où à chaque semaine vous voyez les meilleurs moments de nos intervenants dans toute liberté, incluant quelques snippets de bulletins de nouvelles humoristiques qui sont normalement exclusifs aux membres Patreon de Yann et Frank. On commence avec notre journaliste de Côte du Sud et un des favoris du podcast, José Soucy, avec qui on parle du budget fédéral, de commission d'enquête et du Parti conservateur du Canada.
Je te parlais de finances publiques tantôt, tu me fais penser parce que je voulais t'emmener un autre point, là. Tu sais, est-ce qu'on est encore en mesure de faire des projets qui ont d'allure ou des gros projets au Québec?
Non.
J'ai l'histoire, là, du pont de l'île d'Orléans, là, qui a augmenté de 7 fois une augmentation de 700%. Je m'excuse, là. Ils ont bien beau me sortir toutes les maudites raisons, là, qui ont sorti, puis les peaufiner, puis essayer de m'embarquer là-dedans. J'avalerai jamais cette couleuvre-là de mon existence. Ça n'a plus aucune commune mesure, ce qui se passe. Il va falloir que ça arrête. Tu sais, il y en a des fois, je m'ostinais avec quelqu'un sur Facebook, justement, concernant ça. Il dit, ouais, mais là, il y a l'augmentation, tu sais, l'inflation. L'inflation, là, ça n'a pas augmenté de 700%. Là.
Non, le
surtout
dollar,
aux États-Unis, là. Sont capables, pour le pont de Baltimore, je pense, c'est évalué là, pour le refaire 400. En bas de 400 US.
400 US.
Donc, ça fait quoi, 600 ouais. Canadiens, grosso modo?
Ouais, en tout cas, c'était beaucoup plus long, puis c'était pareil, puis c'était quatre voies. Et non,
alors,
pas
c'est
une
le double facilement, on peut s'entendre là-dessus.
Ouais, quasiment
le double,
du
là, en
double,
superficie. Puis ça coûte 600 millions Canadiens. Nous autres, on en a fait ici à 2,7 milliards. Mais je veux dire, il va-tu y avoir des enquêtes à un moment donné là-dessus?
Non.
Non, mais c'est ça! Comprends-tu pourquoi les gens sont tellement rendus cyniques envers la classe politique québécoise et canadienne? Je veux dire, on se fait
parce
bourrer.
Parce que depuis que j'ai l'âge, que moi, le coup de l'ouvrir, mais depuis que j'ai l'âge de. De Bastarache, c'était en 2010. Bastarache, c'était. J'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 16 ans. Depuis la commission Bastarache, là, puis la commission Charbonneau qui est venue par après, là, j'ai découvert comme jeune tripeux de politique que les commissions parlementaires, là, ou les commissions d'enquête, excusez-moi, les commissions d'enquête sont des pièces de théâtre.
C'est de la peau de rosier.
Publicisées. Qui nous coûte des millions de dollars en fonds publics, puis qu'en gros, c'est uniquement un plaidoyer, un à suite de l'autre, de tous les gens qui nous ont fourrés collectivement au Québec, tout ça télévisé à nos frais, puis qu'à la fin de ce processus-là, il y a un rapport qui se vient souvent tabletté, puis qui n'ose pas se pencher d'un bord comme de l'autre, puis tout le monde qui vous ont expliqué comment ils vous ont fourré, il n'y a aucune accusation criminelle. Fait que le Christie de commission d'enquête, là, tu sais, sérieusement, là, puis mon but, c'est pas de dire, mettons, pour le dire comme la COVID, faut pas faire... Oui, ça, je comprends, c'est plus en termes de recherche, puis de trouver la vérité, tout ça, puis le public va décider. Mais sérieusement, là, faut changer ces méthodes-là d'enquête aussi, parce que encore là, c'est de l'apparatchik, c'est du fonctionnariat, comme dirait Jean Saint-Ève, c'est faire fonctionner le fonctionnement des fonctionnaires, là.
Oui, oui, mais rappelle-toi la dernière commission d'enquête au fédéral, là, sur les camionneurs.
Ouais.
La ministre des Finances, l'ancienne journaliste, là, Chris.
Ils ont été forcés de le faire, parce qu'en passant, c'est pas.
À
cause de la loi le prévoyait, mais si elle avait choisi, tu n'aurais jamais fait une.
À un moment donné, tu la vois, là, elle a fait. Elle comprenait pas, c'est-à-dire que moi, ce que j'en ai déduit, là, je suis pas sûr de mon affaire, mais je suis pas mal, tu sais, certain, mais pas à 100%. Elle attendait plus les réponses qu'on lui donnait, là, pour qu'elle puisse les dire, là. Je dis, c'était complètement ridicule. T'avais l'impression que c'était quelqu'un qui disait quoi dire. À un moment donné, je pense, ça a arrêté de fonctionner, la technologie étant ce qu'elle est. Ça a paru devant tout le monde. Elle comprenait pas. Elle pouvait plus répondre. Elle savait pas quoi répondre parce que le gars qui soufflait réponse, ça marchait plus. Ça faisait penser un peu dans l'émission de la petite vie qui avait été à tous pour un, là, Rénal, le cheap. Puis là, que c'est sa femme qui disait donner réponse, puis à un moment donné, elle a échappé le micro des toilettes. Ça faisait penser un peu à ça. Je veux dire, c'est complètement ridicule à un moment donné. Il va falloir que les gens se réveillent, puis écoute, il n'y a rien qui m'indique qu'on va améliorer nos conditions. Puis sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui t'écoutent, qui nous écoutent présentement, qui sont des fans qui pensent que le Parti conservateur de Pierre Poilievre va faire la différence. Je vous le souhaite, parce que si ça continue de même, qu'on rembarque dans les mêmes régines.
Mais faut pas oublier que même à tout ça, puis c'est pour ça, autant que je vais voter pour Pierre Poilievre, pense que quand même des bonnes idées, puis bien évidemment, tout sauf Trudeau, je suis bien content de ça. Puis ça prend absolument un retour du balancier, mais n'oubliez jamais que le Parti conservateur du Canada reste un des deux partis d'establishment au Canada.
Oui.
Avec
oui.
Les libéraux. Autant qu'ils sont moins pires que les libéraux, mais ça reste un parti d'establishment pareil. Oui, ils ont Poilievre. Oui, il a l'air d'être plus proche du monde. Good for him. Je pense, je le crois. Je pense pas que c'est un menteur. Mais ça reste que, on parle pas d'un parti rebelle. Est-ce qu'il y a un nouveau leadership qui est plus rebelle que ses prédécesseurs? Je suis prêt à le dire, oui. Est-ce que ça va faire toute la différence? est-ce que le pouvoir va pas le establishmentiser? En tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, le faire rentrer dans ma chaîne, l'avenir nous le dira, j'espère pas.
Ben, tu sais que Pierre Poilievre il a voté pour qu'on garde le serment au roi, là, alors que...
C'était stupide, là, personnellement.
Non, mais alors que, écoute, que le gars, que c'est un député acadien du Nouveau-Brunswick, je pense, là, ouais. Tu sais, ce qu'il disait, là, dans le fond, moi, parce que j'ai écrit un texte localement en lien avec Bernard Généreux, voir ce qu'il pensait de ça, et ça donnait le choix aux gens. C'était optionnel, en d'autres termes, soit que tu votais là, pour la nation canadienne, mettons, je me souviens pas c'est quoi les termes, ou que tu continuais avec le vote envers le roi Charles III, bon, pourquoi? Il aurait dû voter comme le caucus québécois conservateur qui a voté contre, qui a voté pour, je veux dire. Non, puis à la fin, l'insulte, c'est que lorsque ça n'a pas passé, ils se sont mis à chanter le « God save the king ». Excuse-moi, là. T'sais, comme indépendantiste, là, je veux
ça, c'est
bien.
Ça, c'est le côté canadien-anglais que je comprends toujours pas. Là. Personnellement, j'ai l'impression, encore là, on parle de la classe politique. Est-ce que les Canadiens-anglais, est-ce qu'il y en a encore des monarchistes? Il doit en avoir, je veux dire. C'est comme les communistes, là, ils sont une petite gang, puis il y en a-tu vraiment des grands tripeux, surtout. De la reine, c'était telle qu'à telle, mais le roi
Charles... Ouais, parce que t'es apprécié. La reine, sincèrement, là, tu sais, je veux dire...
Oh, ouais, écoutez,
ça faisait tellement longtemps qu'elle était là, faisait partie des meubles, puis lorsqu'elle arrivait au Canada, elle parlait en français, ça se comprenait un peu plus, sincèrement. Mais l'autre, là, qui a autant de charisme qu'un poteau au saumon, là, tu sais, puis qui est plate comme la pluie, puis tu sais, t'as le goût de faire un saut chassé dans le dos lorsque tu n'entends parler, lorsque tu le vois. T'sais, je sais pas pourquoi je comprends pas ça, mais en même temps, ça prouve une chose. Tu sais, ça prouve qu'on est des conquis, puis que pour ces gens-là, on leur appartient, puis c'est encore le roi, l'historique britannique. Tu sais, je peux les comprendre d'une certaine façon, mais ce que je dis, ça prouve que pas nous autres, là, je veux dire, on n'est pas comme eux autres, là, c'est pas compliqué.
Non, puis le droit de réserve des monarques britanniques est plus là. La reine l'a respecté, mais le roi Charles, on sait aussi qui dans là. On sait aussi de quelle position il se trouve, puis sur quel enjeu. Il a tellement fait de militantisme dans ses années de princeage que là, on sait de quel bord il se trouve. Fait que
il est très, très proche du Forum économique mondial, Forum économique de Davos.
Ouais, hein. Il a toujours été très, très green, très à gauche,
mondialiste, très, pas compliqué.
Très, très progressiste, ça, très, très Justin Trudeau, finalement. Hein, fait que,
ben absolument.
Cette semaine, avec le docteur Karim El Ayoubi, on parlait des fameux hôpitaux privés qui sont transformés en mini-hôpitaux, finalement des cliniques privées, puis finalement des cliniques gériatriques privées. Finalement, c'est pas ça sans doute qu'on voulait. Karim, c'est comme si tu nous promets une tarte aux pommes, tu sais, fraîchement faite ou mettons, ben encore mieux, regarde, on va prendre un exemple de ton coin, une bonne tarte aux bleuets du Saguenay, tu sais, puis du lac Saint-Jean, tu as fait maison avec la recette traditionnelle de la famille El Ayoubi à côté, tu m'as mis avec un casseau de bleuets. Ben c'est bon des bleuets, je cracherais pas là-dessus, mais c'est pas la tarte que tu m'as promis, tu sais.
Exact. Exact, c'est pas la tarte. Moi, je t'ai promis une tarte, puis j'arrive avec des bleuets. Je pourrais arriver avec une tarte, puis je te dis en même temps, Joey, parce que je t'apprécie beaucoup, je te donne des bleuets que j'ai été cueillis. Là, tu vas dire, hey, c'est super.
Ah ouais. Bon,
c'est exactement. Donc là, on va regarder un petit peu pour les auditeurs, faire le décortiquer. Qu'est-ce qui était promis au départ? Okay? Au départ, on parlait d'une urgence 24 heures sur 24. On parlait de lit d'hospitalisation. Il y avait quand même un flou, puis moi, je les trustais pas trop à ce moment-là par rapport au lit d'hospitalisation.
Oh non,
parce que là, parce qu'ils n'avaient pas annoncé qu'il allait faire une modification de la loi sur les services de santé et les services sociaux qui interdit des hospitalisations, des vraies hospitalisations, donc qui interdit des observations de plus de 24 heures. Donc ça, il n'y avait pas parlé. Donc moi, je trouvais qu'il y avait Anguille sous roche par rapport à ça. Ça, c'est ce qui avait été promis. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui a été respecté? La carte de RAMQ va passer. Donc ça, check. C'est respecté, faut le dire. Après ça, ça va être des investissements privés. Ça, c'est ce que le ministre dit. C'est ce que Yuri Chassin dit également. Maintenant, ce qui n'est pas respecté, c'est que, bon, premièrement, c'est destiné exclusivement aux aînés, OK? Ce n'est pas un hôpital général. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation, ce sont des lits d'observation. Donc, le patient, oui, peut passer la nuit, mais après, il faut soit qu'il soit congédié de l'hôpital. Congédié, pas au sens le péjoratif du terme, mais au sens...
Il ne se fait pas mettre dehors.
Non, mais on dit ça, c'est dans le langage populaire, c'est-à-dire, on lui donne son congé de l'hôpital, c'est-à-dire, soit il est apte à retourner chez lui avec sa prescription, le cas échéant, puis avec un suivi en clinique externe, ou soit on le transfère dans un autre hôpital qui a des facilités avec des lits d'hospitalisation si le patient a besoin d'être hospitalisé. Les patients qui sont là vont pouvoir être observés pour la nuit, mais pas plus, de ce qu'on entend, de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et les nouveaux patients vont être refusés après 22 heures. Donc, ils vont pouvoir être acceptés entre 7 et 22 heures. Entre 22 heures et 7 heures du matin, les patients ne pourront pas se présenter. Maintenant, gardons les avantages et les inconvénients. Commençons par les avantages. Le fait que ce soit spécialisé pour les freiner. Ça, c'est sûr que ben, la première chose de tout, je dirais, ça va quand même dans la bonne direction par rapport aux autres partis. Et c'est ça qui m'amène à dire, tu sais, j'ai pas le choix de donner raison à Jeff Filion là-dessus quand il dit « Vous allez élire le PQ aux prochaines élections, vous risquez de vous ennuyer de Legault. » Parce que quand on regarde un peu les critiques, là, puis ça, j'encourage, j'en profite pour encourager vraiment les gens à lire les plateformes électorales. Lire les plateformes, lire les programmes, c'est beaucoup plus important que d'uniquement regarder des entrevues de 4-5 minutes qu'un chef va donner. Pas que le chef, il veut pas honorer sa plateforme, il veut pas honorer son programme, mais ça va tellement vite, les entrevues. Il y a souvent beaucoup de démagogie, il y a des questions qui sont souvent chargées. Le chef, le porte-parole, n'a pas nécessairement le temps. L'avantage que tu peux avoir lorsque, si c'est uniquement des aînés, c'est que tu peux avoir une qualité de l'acte qui est améliorer. Pourquoi? Parce que tu es dans un créneau qui est spécialisé. Ce qui fait en sorte que les infirmières qui vont être là vont faire beaucoup de gériatrie, les médecins beaucoup de gériatrie, les plateaux techniques, les préposés, tout va être orienté vers l'aspect gériatrique. Donc, ça remplace pas un hôpital général. Pas du tout. Mais ça pourrait permettre quand même, si c'est bien exécuté, de désengorger les urgences pour des patients aînés. Ça, c'est... Il peut y avoir un intérêt, surtout que les patients, les aînés, prennent beaucoup de temps infirmier, de temps nursing, beaucoup de temps des médecins, beaucoup de temps des préposés aux bénéficiaires. Ça nécessite des plateaux techniques qui sont plus complexes.
Penses-tu que ça va être un genre de born to fail, là? Parce que autant qu'il faut dire, ah, mais vous êtes de mauvaise foi avec la CAQ, quoi que ce soit, ouais, mais il y a des précédents, là. Parce que je suis désolé, mais le troisième lien, sans vouloir, vous allez dire, c'est pas en toute la même industrie, le même domaine, le même sujet, mais écoutez, je suis désolé, là, autant que je n'en ai pas confirmation, mais je suis sûr à plus de 90% que le tracé original du troisième lien que le gouvernement a proposé avec le plus grand tunnelier du monde, puis ça allait passer dans Saint-Roch, en plein milieu de la ville de Québec. Personne n'avait demandé ce trajet-là, ni d'avoir le plus grand tunnel de la planète. J'ai l'impression que ça a été surgonflé dans le but de faire tilter toute la médiosphère de Montréal puis partout au monde pour dire que ça n'a pas de bon sens, ça va coûter ben trop cher, puis justement que le projet s'effondre sous son propre poids alors qu'il n'y avait absolument rien qui a été fait. Tout ça grâce à la CAQ, parce qu'elle, ça aurait vraiment été une stratégie de son côté de vouloir abandonner entre guillemets ce projet-là. Mais penses-tu que autant que on souhaite, comme tu l'as dit, que ça fonctionne, puis qu'ils vont quand même aller de l'avant avec Marie, qu'ils ont rétrogradé le projet initial pas mal, parce qu'on s'entend. La seule raison pourquoi ils ont proposé ça, c'est parce qu'il y avait Éric Duhaime d'Impact durant la dernière campagne électorale, puis sachant que c'est un parti qui avait déjà proposé du privé en santé dans le passé, puis carrément que le PCQ en fait retournait leur ancien programme contre eux autres, c'est comme s'il y avait les culottes baissées. Fait qu'à la limite, ils ont un peu été forcés par la politique puis le PCQ de proposer quelque chose dans ce genre-là. Ils se sont fait réélire, sont pognés avec ça. Il y aurait l'air d'une gang de cave de dire que finalement, on le ferait pas parce que déjà que l'expression menteur comme un caquiste est quasiment tatoué en noir sur blanc sur le front de n'importe quel député caquiste, il aurait l'air de fou. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Yuri Chassin là-dessus. Puis qu'en bout de ligne, ils font mes mini, mes cliniques, gériatrie, puis gnangnangnangnangna. Ils peuvent pas dire qu'ils ont rien fait, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues pour que peut-être ça fasse pipi gazette en bout de ligne. Si ça marche, tant mieux, mais si ça foire, ils pleureront pas non plus.
Écoute, ça vaut vraiment la peine de tenir compte là, de ton analyse. Elle vaut vraiment la peine. C'est une très bonne analyse, je trouve. Est-ce que c'est ça? On va voir. C'est sûr que ça donne un peu cette impression-là. Ben, parce qu'à un moment donné, à chaque fois, tu fais une promesse électorale, diminue toujours les attentes, tu dilues constamment ton produit, puis quand tu l'annonces, ça se ramasse quelque chose qui est complètement différent de ce que tu avais. Tu avais fait une très bonne comparaison tout à l'heure, une tarte versus des bleuets ou une pomme versus une caisse de liqueur. Bon, tu sais, je veux dire, on est dans des produits qui sont complètement différents. Au moins, là, qu'ils le gardent comme ça. Tu sais, je veux dire, au moins, là, qui ne diminue plus les attentes. Sinon, tant qu'à ça, ne le faites pas. C'est là où c'est vous ça. Êtes pour encore downgrader par rapport à ce que vous présentez dans l'article de Radio-Canada aujourd'hui. Si vous êtes pour encore downgrader, ben, dites donc que vous voulez le statu quo à ce moment-là.
Là, on est un peu dans la caricature et dans la politique fiction. Mais mettons que ça aurait été QS qui était le gouvernement sortant, puis eux autres sont anti-pétrole ou whatever. Mais là, t'as la population qui en veut de l'exploitation pétrolière, peut-être le PCQ qui est nargue. Là, ils proposent de créer, mettons, je sais pas, deux projets pilotes de plateformes pétrolières au large dans le Saint-Laurent, whatever. Là, finalement, ils arrivent au pouvoir, QS se fait réélire, puis finalement, ça va pas être une plateforme, ça va être une station de pompage. Finalement, ça sera pas une station de pompage, ça va être un bateau qui va passer aux deux semaines, pomper le sol, puis tu sais, c'est ouais, quasiment ça vois, un peu. Là,
ouais, ouais. On caricaturise, mais ça ressemble un petit peu à ça. Honnêtement.
Dans cet extrait de mes bulletins de nouvelles, je revenais sur l'entrevue que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait avec Patrice Roy. Très bien.
Être dans à peu près à mi-chemin dans le plan de santé.
Donc, votre vie n'est pas comme un cauchemar permanent avec des mauvaises nouvelles, comme le mythe de Sisyphe, là, où on monte la pierre, elle redescend, on monte la pierre, elle redescend. Vous n'êtes pas comme pris dans une situation où vous ne voyez pas le vrai gros bout du tunnel.
Bien, moi, je vois les difficultés. Je suis très conscient là, des moments difficiles quand il se passe quelque chose, un patient qui est maltraité dans une urgence. Je les vois tous, ces choses-là. C'est conscient. Mais cet après-midi, je rencontre mes PDG, là, les 35 PDG, puis je leur dis « Bravo, on voit les améliorations qui sont faites. » Puis savez-vous quoi? Ils sont contents parce qu'ils travaillent tellement fort avec leurs équipes pour réussir que c'est ça notre job, c'est d'être capable de montrer qu'il y a des... Comme Bernard disait, Bernard de Rome...
Si la tendance se maintient,
on va réaliser ce qu'on a dit qu'on ferait pour 2025. On est là.
This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Things are gonna be okay.
L'homme de 6 pieds 5 pouces se retrouve coincé 4 jours sur une petite civière. Vu son handicap, sa conjointe demande un lit à pression alternative qui limite les risques de plaies de lit.
J'ai chicané, j'ai chiolé, j'ai crié, il n'y a rien que j'ai pas fait. Je voulais avoir l'attention où j'avais besoin.
Des cas comme ça dans les urgences inacceptables, est-ce qu'on va continuer à voir ça aux semaines dans les différents médias?
Malheureusement, il y en a encore. Je l'ai dit que c'était pas acceptable. On voit à peu près 10 000 personnes tous les jours aux urgences au Québec. 10 000 à tous les jours, là. 3,5 millions de personnes par année. Quand ces cas-là arrivent, c'est vraiment l'exception. Mais il faut en prendre note parce qu'il faut que ça arrête. Mais en même temps, je suis très conscient qu'on en a de moins en moins de ces cas-là. Et je veux juste saluer que le travail que nos gens font pour essayer qu'on en ait le moins possible, mais malheureusement, il y en a encore.
3,5 millions de personnes par année? Hey! Il y a presque 40 % des Québécois qui vont au moins une fois à l'urgence à chaque année. Ce n'est pas normal, mais tout va bien.
On s'est amélioré, je dirais, à la marge. On s'est amélioré un peu sur l'accès. Je pourrais vous donner des exemples. Mais moi, ce que je travaille en ce moment qui va faire qu'on va revenir à mieux qu'avant la pandémie,
okay,
c'est les changements de fond. Nos conventions collectives, nos ententes avec les médecins, tous nos systèmes informatiques. Et c'est là que je dis, prenons un encouragement, autant pour les citoyens que pour les employés. On a 330 000 qui, dans la dernière année, malgré le vieillissement de la population, malgré tout ce qui nous frappe, on a réussi à s'améliorer. Moi, c'est ça qui m'encourage.
Oh, my sweet summer child.
Hey, quand tu penses que le système de santé va aller mieux à cause d'une nouvelle convention collective?
Projette dans le temps. L'élection va arriver 2026. Est-ce que vous pourrez dire, mission accomplie, j'ai remis sur les rails, en tout cas, le système de santé, ça sera jamais parfait, mais ça roule mieux. Je peux aller faire autre chose dans ma vie.
Bien, ce que j'aimerais beaucoup, puis c'est ça que je visais avec Santé Québec, c'est m'assurer de la pérennité du réseau avec cette équipe-là.
D'accord. Mais une fois que c'est fait,
ouais,
vous allez pouvoir vous sentir plus libre de prendre des choix personnels, de dire « je veux peut-être, oui, faire autre chose ».
Puis ça, on verra ça en 2026.
Parce non, que... je comprends, mais c'est comme votre condition préalable pour être plus pour la liberté pour vous.
C'est pour ça que j'ai accepté de faire un deuxième mandat, parce que je voyais qu'on était capable de livrer cette marchandise-là. Je suis encouragé, vraiment encouragé de où on est aujourd'hui puis où on va être dans 2 ans.
Le check engine est allumé dans le dash.
Monsieur Roy, je vous dis, là, sérieusement, je suis rendu tellement proche du but que je me suis donné. Il faut que je finisse le travail et c'est ça que je m'engage envers les Québécois. Les grands changements qui me restent à faire, convention collective, mettre en place les systèmes informatiques, c'est ça que je dois faire. Après ça, on parlera d'autre chose.
I cannot fulfill that wish.
Exclusivement cette semaine, notre mairesse Luce Dano est de retour dans le podcast en remplacement de Serge Cloutier. Elle donnait son avis sur le financement des services de nos petites municipalités et les potentielles disparitions de certains de nos villages au cours des prochaines décennies. Parlant de financement, c'est article de la presse qui date en fait de février dernier. Des organisations demandent à François Legault de tenir sa promesse d'investissement. Une trentaine d'organisations de plusieurs régions demandent au premier ministre François Legault de tenir sa promesse électorale d'investir 470 millions pour aider les villages du Québec à assurer leurs services de proximité, ouais, à leurs citoyens. Écoute, je suis un gars de région. Les villages, j'en connais. Des villages, j'en suis allé. C'est un sujet que j'avais parlé avec Jacinthe Évarel il y a plusieurs mois de ça. Et comme moi, elle se désole de voir qu'on a des des villages en décrépitude. J'en ai dans mon coin aussi. C'est vraiment plate. Mais d'un autre côté, autant que je suis pas contre le principe de davantage faire vivre nos villages puis d'inciter les gens à y aller, mais je pense qu'il y a une réalité. Puis Jacinthe n'était pas d'accord avec ça. En tout cas, elle souhaitait que ça arrive pas, mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'est inévitable vu le vieillissement de la population. On va devoir dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années, il y a des villages au Québec qui vont fermer. Là. J'ai la forte impression que ça va arriver. Ou du moins, leur population va descendre considérablement à cause justement de la génération baby-boom qui a créé de nombreuses municipalités à travers le Québec. Les racines se sont étendues trop loin. Là. Je pense qu'à un moment donné, la population on fait moins d'enfants. Fait que j'ai l'impression que c'est inévitable qu'on va en perdre. Moi, dans ma tête, je me dirais, c'est focussons sur ceux qui vont bien. Focussons sur ceux qui sont, en guillemets, sauvables. Autant vous allez me dire comment tu vas catégoriser ça, Joey. Je comprends que c'est pas facile. Il y a de la réalité de la région, il y a de la réalité de la place, il y a la géographie, il y a la quantité de services, le bassin de population. Tu sais, c'est vraiment multifactoriel.
Il peut y avoir des critères. Moi, pour avoir visité là, peut-être autour de 20 municipalités en campagne électorale, à un moment donné, il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. Puis je dis, ici, dans quelques temps, il n'y aura plus rien. Là, tu sais. Effectivement, c'est possible. Il faut se rappeler aussi de l'historique. Si je regarde mon coin de mon territoire, à peu près 100 km carrés. Avant, c'est pas loti de cette façon-là. On avait une grande superficie et on s'aperçoit à un moment donné que les villages autour, les municipalités autour faisaient toutes partie du même territoire. Il n'y avait seulement qu'une appellation. Il n'y avait seulement qu'une municipalité. Puis celle-ci, elle a été divisée. C'est pour ça qu'on voit aussi des cantons hein, en travers ça. Et celle-ci a été divisée, subdivisée. Et même nous, chez nous, si je regarde au niveau historique, il y a une partie du territoire qui fait partie maintenant de la ville-centre. J'ai au moins 2-3 municipalités autour qui faisaient partie du même lot de Wickham. C'était Wickham qui était plus en avant-plan à l'époque. C'était pour ça que c'est un milieu qui avait un rail de chemin de fer qui passait à aller jusqu'à pas si longtemps que ça. Puis il s'est installé beaucoup d'industries plus. Fait que c'est pour ça qu'on est un village peut-être plus facilement sauvable, entre guillemets, par rapport à des petites communautés de 500. Personne,
un des facteurs principaux, je crois, c'est vraiment la proximité des grands centres et également la proximité avec les artères principales. Tu sais, comme moi, je viens de Chaudière-Appalaches et l'autoroute 20. Prêt à t'assurer que la majorité des villages ou des petites villes comme Montmagny ou peu importe, qui sont vraiment collés sur le fleuve ou collés sur l'autoroute 20, ils vont survivre. Parce que justement, ils sont proches des voies principales qui leur permettent d'aller vers des services. Tandis qu'on prend un village vraiment collé sur la frontière américaine à peu près une demi-heure, 45 minutes, une heure de l'autoroute 20, comme Saint-Adalbert. Je sais qu'il y a des exceptions. T'sais, comme pour ceux qui connaissent le coin, Saint-Pamphile, ils ont une grosse industrie forestière. C'est un village qui est très loin des grandes artères, mais ils ont une grosse productivité économique. Fait que c'est ça qui est sauf. Oui. Et ils ont un poste frontière officiel avec la frontière américaine aussi. Fait que c'est du cas par cas, mais ça reste qu'il y en a plusieurs que, justement, la géographie les avantage pas. Ça a été créé à l'époque à cause de telle industrie qui a fermé par la suite, un peu comme Thetford Mines ou peu importe, qu'il n'y a plus de mine ou whatever. Je pense qu'on est capable de garder la majorité, mais il y en a plusieurs, j'ai l'impression qu'on va falloir justement mettre le clé sous la porte.
T'sais, on verra dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Mais autant que le provincial veut avoir des redevances fédérales, autant les municipalités veulent avoir aussi une redevance du provincial. Le provincial passe par les MRC. Les MRC gèrent à leur façon comment ils veulent le remettre aux municipalités. Ça, c'est la partie pas facile parce que faut que tu récupères de l'argent en faisant des projets. Puis des fois, tu veux faire le projet, tu demandes la subvention à la MRC qui reçoit des sommes du gouvernement provincial. Mais là, il faut que la municipalité investisse autant qu'elle demande de l'argent. Mais à un moment donné, si on nous donnait 25 000, des fois, on s'endetterait pas de 25 000. Si c'est pour un projet de 50 000, on en ferait un plus petit projet et on s'endetterait pas, mais on peut pas le faire comme ça. C'est vraiment fait toujours pour faire dépenser la municipalité. C'est très difficile d'aller chercher des subventions sans que ça nous coûte un sou de plus. Puis par rapport au reste, ben, je dirais, à un moment donné, les routes, il va falloir quand même les garder. Il faut que les cultivateurs se rendent sur leur terre. Il faut quand même, on veut passer, on va aller à un endroit X, là, je veux dire, d'un point A au point B. C'est ça qui coûte cher. Hein? Il faut entretenir les routes. Ça coûte très, très cher. Fait que soit qu'à un moment donné, le gouvernement provincial dise, écoute, on gère toutes les routes, ou fédérales, peu importe, là, mais on gère les routes, occupez-vous pas de ça, puis oui, il va y avoir des villages qui vont peut-être s'éteindre, mais pas complètement, parce qu'il y a des terres agricoles un peu partout, là. Fait que ça va être maintenu, mais effectivement, si moi, je me dis, si on peut éviter autant que possible, puis d'essayer de garder la vie de quartier qu'on connaît,
ah oui, c'est sûr.
Mieux. Maintenant, je sais pas comment ça peut s'arrimer.
Vu que vous en avez pas eu la semaine dernière, voici un deuxième extrait d'un autre de mes bulletins de nouvelles exclusifs au Patreon de Yann et Frank, où je commente l'entrevue entre Mathieu Bobcôté et Laure Varidel. Bon, normalement, je fais pas passer du Bobcôté deux fois dans la même semaine, mais là, je pouvais pas passer à côté. Il a invité Laure Varidel.
J'ai l'impression que c'est un gag. Je constate que ce ne l'est pas. Donc, il y a deux éléments là-dedans. D'un côté, il y a des gens qui nous disent que la question du plastique est une non-question. Et ensuite, on cherche à capitaliser sur une forme d'agacement par rapport à certains écologistes.
C'est extrêmement mystérieux. Je vous dirais, la seule explication plausible que je vois, c'est le déni des études scientifiques qui existent, des problèmes et même du gros bon sens. Et c'est particulier parce que le Parti conservateur du Canada prétend être le parti du gros bon sens. Et dans le cas de la présence de plastique dans notre environnement, des effets non seulement sur les écosystèmes, mais de manière très, très inquiétante sur la santé humaine, eh bien là, ils sont vraiment pas dans le gros bon sens. Parce que le plus simple dans les solutions qui ont été étudiées, c'est évidemment de réduire à la source, d'éviter que certains types de plastique soient vendus et donc utilisés et donc se retrouvent au bout de la chaîne dans nos écosystèmes, mais même au moment de l'utilisation dans notre corps. Vous savez qu'il n'y a aucun être vivant qui a été étudié, d'ailleurs, et aucun même placenta qui a été étudié, qui n'a pas de résidus de plastique. Et ces résidus de plastique-là, ils sont pas anodins pour la santé. Ce sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent jouer sur les fonctions vitales, reproductives des êtres humains, évidemment, de toutes les autres espèces fauniques aussi.
OK. Sur la question du plastique à usage unique et du problème de la biodégradabilité de celui-ci et du fameux continent de plastique dans nos océans, je t'allais fouiller un peu. Autour de 75% de tout le plastique présent dans l'océan viennent des pays d'Asie du Sud-Est en majorité. On estime qu'un million de tonnes métriques de plastique se retrouvent dans l'océan chaque année pour un total jusqu'à maintenant d'un peu moins de 70 millions de tonnes métriques.
Wow, that just fucked my head.
Voici les pays qui en mettent le plus par année dans le 10 millions. Les Philippines avec 356 000 tonnes, l'Inde 126 000, la Malaisie 73 000, la Chine 70 000, l'Indonésie 56 000, le Myanmar 40 000, le Brésil 38 000, Vietnam 28 000, Bangladesh 24 000, Thaïlande 22 000 et tout le reste de la planète 176 000. Fait qu'avant de nous faire la morale au Canada, là, pensons justement au gros bon sens.
Amen! Faut savoir aussi que toute l'industrie du plastique est liée au secteur des énergies fossiles, un secteur qui est évidemment prioritaire pour les conservateurs en Alberta et en Saskatchewan. Donc, je pense que cette dynamique économique-là, la puissance du lobby aussi gazier et pétrolier sont en fait donnent ces résultats-là concrètement dans des prises de position, mais qui, selon moi, vont avoir l'effet contraire de ce qu'ils souhaitaient pour éventuellement parvenir à séduire l'ensemble du pays. On ne peut pas ne pas tenir compte des préoccupations des Québécois et des Québécoises si on aspire à être au pouvoir à Ottawa.
Comme le lobby écologiste est derrière les fourchettes en bois et les poils en carton. Vous êtes des lobbyistes comme les autres. Et n'oublions pas l'hostie sac à pain brun qu'on est pogné avec chez Subway, où c'est que tu vois plus rien dedans pis y a même pas de pogné dessus.
Je suppose qu'il diagnostique une forme d'agacement dans la population par rapport, et je dis pas tout l'écologisme, mais un certain écologisme qui peut être tatillon, qui peut être exagérément se mêler de la vie des gens. Ce que j'appelle l'écologisme qui va fouiller dans les déchets des uns des autres pour voir si les gens ont bien recyclé. Un écologiste qui va dire, bon, d'abord la voiture électrique, ensuite plus de voiture électrique, ensuite seulement le transport en commun. Donc, il y a un écologiste qui peut agacer une partie de la population. Est-ce que vous sentez dans la population aussi des réserves par rapport à un certain courant écologiste aujourd'hui?
C'est clair que lorsqu'il est question de transformer les habitudes de consommation, puis quand on regarde les études, puis l'état de la situation, c'est clair qu'on a des habitudes de consommation à changer et que pour ça, ça prend des décisions politiques pour faciliter les choix plus écologiques, pour que les choix les plus écologiques soient à la fois les plus faciles, les moins chers, les plus agréables, que ce soit ce qui est le plus logique à faire. De la même manière qu'à un moment donné, on a arrêté d'autoriser le plomb dans l'essence, ben là, ça a vraiment amélioré la présence de plomb dans l'air et les conséquences sur la santé. Donc, les politiques gouvernementales à tous les niveaux, mais au fédéral, dans le cas de l'énergie fossile...
D'abord, il faut regarder l'enfant dans les yeux et lui dire « Ta gueule !»
Voilà.
Hey,
Quelle fin, psychologue.
On termine avec un moment cocasse que Sensei Pascal Diri, avec qui on parlait de comment on peut découvrir notre destin à l'aide d'une guimauve. Ça a vite tourné en humour. En mode guimauve, écoutez, Pascal m'a envoyé cette idée-là hier. Il dit prédire son destin à l'aide d'une guimauve. J'ai marqué, es-tu sérieux? Il m'a dit, oui, OK. Tant que la semaine prochaine, il me parle pas de régler mes énergies avec des cristaux de quartz, ça devrait bien aller. Mais d'habitude, Pascal, il y a des raisons derrière ces trucs. Fait que, écoute, on part ça ce matin en toute liberté, en mode guimauve.
Marshmallow time!
Comment une guimauve peut prédire votre destin, votre avenir? Et là, je pense que j'en avais glissé un mot avec Yann dans le temps, mais on revient sur une étude psychologique menée dans les années 70 par l'Université de Stanford.
OK.
Et un psychologue, un psychologiste.
Un psychologue.
Un psychologue! Quelqu'un qui va te dire, tu vas-tu manger cette guimauve, une guimauve fraîche, que le chef Didier m'a apporté sur ma table après la fin de mon goûter. Un goûter succulent, confidentiel, ponctuel et chaleureux. Amène-moi le jus du fond de poêlon après 45 steaks et glisse-le sur cette guimauve délicieuse pour en faire un volcran de gosse saturé. Mes artères sont bouchées, c'est une expérience succulente, je vais me péter trois pontages.
Ça, c'est ce qu'on appelle un lava cake. c'est bon.
Tu sais que la Cortina, là, c'était le long de la 73, là, avant d'arriver dans le bout de Charlebourg. Là. Je passais à côté, genre, avec quand j'allais à l'école quasiment tous les jours. Un, ils n'avaient pas l'air invitant. Deux, je voulais m'en aller. Mais on le connaît grâce à André Arthur. Alors, il y avait le bistec aussi, c'est vrai, ça.
Dans la gare du Palais, quand je reçois mes 45 millions de nappes par Amazon, je vais toutes les tester une à une avec les succulents bifteck 3A et la nouveauté, un steak 5. Ah, tellement fondant dans la bouche qu'il vient en soupe.
Une petite soupe de steak, Monsieur Arthur.
Oh, ça va être succulent. Un steak 5A que je mange avec une paille, avec ma bavette en avant, une bavette en arrière, puis une sur le pote. Pour être sûr que quand je liche mon beefsteak, elle n'est pas dans le front. Madame, moi, je mange mon beefsteak traditionnellement sans couteau. À même la bouche, let's go, Rytro!
Yes, sir.
On parle très haut, pas encore de guimauve.
Guimauve, on va
voir. Regarde pas avec ce personnage-là, moi, je peux partir 3 heures. Tu le mets n'importe où, ça marche tout le temps.
En tout cas, ton dernier épisode au prochain Noël, je sais comment on va le faire. Je pense qu'on va se mettre en mode de la Cortina du début à la fin, juste pour faire rire les auditeurs, je pense.
Le pire, il faudrait qu'on se trouve un green screen avec une photo intérieure archivée sur Google du da Cortina.
Oui, c'est sûr. On va s'organiser de quoi. C'est tout pour cette semaine. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif au Patreon de Yann et Frank, abonnez-vous immédiatement au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.